Paludisme qui tue un enfant chaque minute dans le monde. Mais il y a une lueur d'espoir grâce à de récents vaccins qui commencent à être administrés dans des pays africains. L'UNICEF est l'une des chevilles ouvrières de ce déploiement. La porte-parole de l'ONG en France, Lucille Grosjean, est notre invitée à 6h20. Dans le grand angle, reportage sur l'extrême droite qui est divisée au Parlement européen. Nationalistes et populistes n'arrivent pas à s'entendre. Dans l'esprit d'initiative, une cantine qui offre des repas aux animaux des personnes démunies. Dans la chronique polar, un auteur américain encore peu connu en France, Wiley Cash. L'invité déjà debout dans trois quarts d'heure est professeur de trompette en Nouvelle-Calédonie. Et à propos de musique, dans Capture d'écran, un documentaire sur des chanteuses des années 80 au caractère bien trempé. Et côté playlist, dans les prochaines minutes, Luther et Lana Del Rey. Et avant tout cela, le journal présenté par François Breton. Bonjour.
Bonjour Mathilde, bonjour à toutes et à tous.
On commence par cet homme que l'on voit sur un fond blanc assis sur une chaise en plastique et blessé au bras.
Hersh Goldberg Pauline, 23 ans, l'un des otages les plus connus du Hamas. Il apparaît dans une vidéo publiée hier par le mouvement islamiste. Le jeune homme a été enlevé le 7 octobre dernier alors qu'il participait en Israël au festival Techno Nova. Ses parents se disent soulagés de le voir en vie, mais la diffusion de cette vidéo a provoqué hier soir la fureur aussi chez plusieurs dizaines d'Israéliens qui sont descendus dans la rue. Thibault Lefebvre.
À Jérusalem, son visage souriant, juvénile, photographié de trois quarts et sur tous les murs, et notamment ceux de son bar préféré, le Sira, le repère de la jeunesse de gauche en plein centre-ville. Et c'est cette jeunesse qui est sortie hier soir pour d'abord manifester devant la résidence de Benjamin Netanyahou et puis interpeller le ministre d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir, qui sortait de la grande synagogue. Peu de temps avant, les parents de Hersh Goldberg Pauline, Rachel et John, ont pris la parole dans une vidéo tourner chez eux pour demander au plus vite une trêve.
Nous sommes là aujourd'hui pour lancer un appel. Il s'adresse à tous les leaders engagés dans les négociations. Le Qatar, l'Égypte, les États-Unis, le Hamas et Israël. Soyez courageux, saisissez cette opportunité et trouvez un accord pour que nous puissions retrouver nos proches et mettre fin aux souffrances dans la région.
La maman, Rachel, a le dernier mot.
If you can hear this,
et demande sobrement à son fils et avec beaucoup de dignité
we love you,
de rester fort et de survivre.
Stay strong, survive.
Le cabinet de guerre israélien doit se réunir aujourd'hui pour discuter des négociations et tenter de sortir de l'impasse.
Thibault Lefebvre, correspondant de France Inter à Jérusalem. Hier soir, Israël a lancé une offensive contre une quarantaine de cibles du Hezbollah dans le sud du Liban. L'armée affirme avoir tué la moitié des commandants de la milice chiite dans cette zone. Le Hezbollah ne communique rien pour l'instant. L'armée israélienne qui a aussi bombardé le secteur de Rafah hier dans le sud de la bande de Gaza. Les États-Unis préparent un premier envoi d'armes vers l'Ukraine après la promulgation hier de l'aide de 61 milliards de dollars par Joe Biden. Dans cette première cargaison, des véhicules blindés, des obus, des roquettes pour la défense antiaérienne de Kiev, mais aussi des missiles longue portée. Washington a d'ailleurs révélé hier que plusieurs de ces missiles avaient été envoyés à Kiev en mars dernier. Ils auraient été utilisés pour viser un aérodrome russe en Crimée, selon un responsable américain interrogé par Reuters. Emmanuel Macron descend aujourd'hui dans l'arène des Européennes. Le président s'en défend, mais il tient ce matin à la Sorbonne un discours sur l'Europe. Si ça vous dit quelque chose, c'est normal. Il avait parlé du même thème au même endroit en 2017. Emmanuel Macron veut dessiner l'avenir de l'Europe pour les prochaines années tout en mettant en avant son bilan depuis ce discours de 2017.
Un jeudi noir aujourd'hui dans le ciel français et européen.
Près de 2000 vols sont annulés. 1000 autres doivent être déroutés en Europe, affirme une association de compagnies aériennes. Elles n'ont pas pu reprogrammer les avions annulés à cause du préavis de grève des contrôleurs aériens français levé à la dernière minute hier matin. En France, trois quarts des vols sont donc supprimés à Orly, les deux tiers à Marseille, la moitié environ à Paris-Charles-de-Gaulle et dans les autres aéroports français. La célèbre verrerie française Duralex est placée en redressement judiciaire pour la quatrième fois en moins de 20 ans. Le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert officiellement la procédure hier. Deux mandataires judiciaires sont chargés d'inspecter l'usine historique de la chapelle Saint-Mémin avant une nouvelle audience dans un peu plus d'un mois. En attendant, que va-t-il se passer pour les 230 employés, Marie Dorset ?
Tout ce que savent les salariés de Duralex, c'est qu'ils vont continuer à travailler au moins jusqu'à la prochaine audience fixée le 5 juin. D'ici là, les administrateurs nommés par le tribunal vont visiter l'usine et tenter d'évaluer au mieux la situation. François Dufrasne, représentant CGT.
Un état des lieux va être fait, le point sera fait le 5 juin. Aujourd'hui, on ne peut pas en dire plus.
Pas même sur le montant des dettes de Duralex, aucune communication sur la situation financière de l'entreprise n'a été faite. Ce quatrième redressement judiciaire depuis 2008, c'est un coup dur, mais le syndicaliste veut garder espoir.
Comme d'habitude, on tombe de haut. Déjà, on est maintenu. C'est le principal. Mais on baisse pas les bras, on y croit.
Pour lui, la verrerie historique a encore de l'avenir.
Si derrière, il y a des fonds qui sont mis, si on a un industriel qui arrive avec un bon projet, oui, l'usine peut tourner. Il n'y a que ça qui manque. Le reste, on l'a.
Mais qui de sérieux pour reprendre? C'est bien la question que se posent les salariés. Michael Ramos travaille depuis 29 ans sur le site de la Chapelle Saint-Mémin. Il a vécu les trois derniers redressements judiciaires. Difficile de rester optimiste.
On va avoir le sentiment que ça va recommencer à un moment donné dans un futur proche. On fait, nous, les salariés, que subir en fin de compte ce qui se passe actuellement.
Dans un communiqué, la préfecture assure que si une offre de reprise solide émerge, l'État sera prêt à l'accompagner.
Marie Dorsay, France Bleu, Orléans. Une mauvaise nouvelle de plus pour Nestlé. Le groupe propriétaire de Perrier est obligé de détruire 2 millions de bouteilles d'eau gazeuse. Elles pourraient être contaminées par des matières fécales. Des organismes qui s'est trouvé dans un puits de forage de Perrier situé à Vérès, dans le Gard. L'État a demandé à l'entreprise d'arrêter totalement son exploitation.
En football, le Paris Saint-Germain doit patienter encore un peu avant de décrocher un 12e titre de champion de France.
Les Parisiens ont fait leur part du travail hier soir en battant largement Lorient 4-1 avec un doublé de Kylian Mbappé, un autre de Ousmane Dembélé. Mais Monaco a joué les troubles faits. Il fallait qu'il ne gagne pas pour que le PSG soit sacré. Sauf que les Monégasques se sont imposés face à Lille 1-0, Xavier Monferrand.
L'art de faire durer le suspense. Paris a bien cru qu'il pourrait fêter son 12e titre de champion en descendant de l'avion de retour de Bretagne. Mais l'AS Monaco a répondu du tac au tac aux Parisiens plus tard dans la soirée face à un adversaire direct pour l'Europe. Le PSG a rangé le champagne et le sacre attendra. Ce n'est que partie remise car l'issue ne fait aucun doute pour Ousmane Dembélé, auteur d'un doublé à Lorient. Il est au micro d'Amazon Prime.
Clairement, on est venu ici pour gagner, pour continuer sur notre dynamique. Et je pense qu'on a fait un bon match, on a été sérieux et on mérite les 3 points. Maintenant, faut terminer le travail pour être champion au plus vite. Pour moi, ça va être mon premier titre. Une grande fierté, j'espère en tout cas. Être champion avec le Paris Saint-Germain, c'est toujours beau.
Et c'est peut-être un mal pour un bien. Paris aura l'occasion de boucler l'affaire dès samedi devant son public en cas de victoire face au Havre. Et ce, peu importe ce que fera son dauphin le lendemain, Monaco, qui prend une sérieuse option sur la Ligue des Champions. 5 points d'avance sur le 3e, Brest et même 10 sur le 5e, l'OGC Nice. L'affaire semble presque entendue. Reste à savoir qui de Lille ou de Brest décrochera le dernier ticket direct pour la Grande Coupe d'Europe.
Xavier Monferrand jouait hier soir un des matchs en retard de la 29e journée de Ligue 1. Marseille et Nice ont fait match nul, 2 buts partout.
C'était le journal de François Breton, il est 5h08.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques, Euromaster garantit votre mobilité et préserve votre budget.
Le ciel reste couvert, Sébastien Léas.
Les éclaircies seront encore bien timides. Dans l'ensemble, les nuages les plus épais s'accompagneront d'averses. Ces averses auront une préférence pour une large partie sud-ouest aujourd'hui, avec même un peu de neige au-dessus de 1500 mètres sur les Pyrénées. Les averses seront plus localisées de la Bretagne aux frontières belges, ainsi qu'en Lorraine et en Alsace. Le soleil arrivera à faire de belles apparitions, notamment entre le bassin parisien et la Franche-Comté, mais aussi en Normandie et sur les Pays de la Loire ce matin. Le ciel sera encore plus dégagé et la journée sera ensoleillée des Alpes à la vallée du Rhône jusqu'à la Côte d'Azur et la Corse. La fraîcheur reste omniprésente avec notamment des gelées par endroits de la Normandie au quart nord-est en passant par le bassin parisien et l'Orléanais. Cet après-midi, les maximales seront 3 à 6 degrés sous les valeurs de saison. 11 degrés à Dunkerque et Metz, 13 degrés à Dijon et Reims, 14 degrés à Caen, Paris et Biarritz. On attend 15 degrés à Grenoble, Rennes et à Tours, 16 degrés à Toulouse, 17 degrés pour Marseille et Bastia et jusqu'à 18 degrés à Toulon et Perpignan.
France Inter, le 5-7.
La Martinique et la Guadeloupe en alerte rouge pour la pollution de l'air en particules fines. Un épais nuage de poussière de sable du Sahara traverse la Caraïbe. C'est l'une des infos que nous développerons dans le journal des Outre-mer. Nous évoquerons aussi le mal logement à La Réunion. De quand datent les PFAS, ces polluants éternels dont on parle tant en ce moment? Réponse de Cyril Lacarrière dans 10 minutes et vous risquez d'être surpris. Enfin, avec Tanguy Pastureau ce matin, nous aurons le rire amer. On vient d'écouter le journal de 5 heures et maintenant on ouvre le journal de quête d'un rappeur au visage toujours masqué. Luther est dans la playlist de France Inter.
confiance, un sourire, c'est pas ce que ça cache. On vient prendre la température de 3 snaps et on s'arrache. Quand je les vois, moi je me la raque. TMTC, qu'on se refait pas. Elle était moche ma vie quand on traînait le soir et qu'on se levait pas. J'ai du zèle pour les mauvaises choses. La para, c'est 5 ans et avec elle, rendez-moi mon temps. J'ai trop la rage pour essuyer ma peine. J'ai quelques lingettes qui traînent. La flemme de passer le permis, je restais avec la plaquette qui freine. Oh là là, fallait voir ma tronche quand j'ai fait mes premières tunes. J'ai pris un dîme, j'suis une paire de baskets, j'ai adopté nouvelle attitude. J'suis passé de squatter le vieux banc à tartifume. À me faire CUS par des népos, des bourgeois avec des noms à particules.
Ils pensent savoir ce qu'on a dans les yeux, mais ils sauront jamais, c'est comme ça. J'pouvais taille, briller, j'fais les deux. J'fous le feu pour casser les nœuds. Ils pensent savoir ce qu'on a dans les yeux. Ils sauront jamais, c'est comme ça. J'pouvais taille, briller, j'fais les deux. J'fous le feu pour casser les nœuds.
Kid, j'trouvais pas grand chose d'archi lourd. Seul, ma mère m'a acheté mon PC, c'était archi lourd. Sun, kill sur kill. J'ai une enfance digitale, j'me canne devant l'ordi avec mes digiballes. Faire le bien, ça fait sentir mal. J'veux bien prendre 20, 50, 100, cachet Bolloré. Mais j'me trouverais quand même honorable, pas me sentir honoré. Tout est gris, rien n'est coloré. Qu'est-ce qu'on se fait chier sa mère? C'est souvent du toc si les rêves qu'on te propose sont trop dorés. Porter le poids du vide, ça te donne un mal de dos. Ça me fait mal au cocher, c'est qui le mec qui chiale dans le studio? Même quand fait beau, j'irai porter des habits chauds. J'aimais déjà pas la lumière, déjà petit je me cachais sur les vidéos.
Ils pensent savoir ce qu'on a dans les yeux, mais ils sauront jamais, c'est comme ça. J'pouvais taille, briller, j'fais les deux. J'fous le feu pour casser les nœuds. Ils pensent savoir ce qu'on a dans les yeux, mais ils sauront jamais, c'est comme ça. J'pouvais taille, briller, j'fais les deux. J'fous le feu pour casser les nœuds.
Journal de quête de Luther, l'une des 10 chansons de son album Exit, sorti le mois dernier, et Luther sera ce soir au Printemps de Bourges. 5h12, le journal des Outre-mer. Bonjour José-Manuel Lamarque.
Bonjour Mathilde Munoz.
On commence par le scandale de la pollution à la chlordécone aux Antilles. Le parquet général demande la confirmation du non-lieu.
Effectivement, dans un communiqué, la procureure générale Marie-Suzanne Lequeo explique que le parquet général, après avoir étudié l'ensemble de la procédure, a estimé en droit comme en fait qu'il y avait lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de non-lieu prendue le 2 janvier 2023. Alors si la justice reconnaît un scandale sanitaire, la prononciation de l'abandon des poursuites met fin à une information judiciaire ouverte en 2008. Donc plusieurs parties civiles ont fait appel de cette décision et la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris examinera le dossier le 10 juin prochain. Parce qu'il faut savoir qu'aux Antilles, le non-lieu prononcé en janvier dernier avait provoqué beaucoup d'amertume, car plus de 90% de la population adulte en Guadeloupe et en Martinique est contaminée par la chlordécone selon Santé publique France, et les populations antillaises présentent un taux d'incidence du cancer de la prostate parmi les plus élevés au monde. En Martinique, maintenant, hier mercredi, le département a vécu une nouvelle journée rouge, l'indice de qualité de l'air étant très mauvais. En cause, et entre autres, les particules fines transportées par la brume de sable venue du Sahara, comme le précise Lucien Lin, le secrétaire général de l'Ordre des médecins de la Martinique, au micro de Maurice Violeton, de Martinique la première.
Dans ce phénomène, il y a des éléments qu'on va appeler microparticules fines qui auront des répercussions. Donc en fait, il y a des éléments naturels comme du sable, il y a aussi des champignons, il y a aussi des bactéries qui sont transportées. Il y a des éléments qui sont des conséquences de l'activité anthropique, c'est-à-dire le transport, les constructions, le ciment, les maisons, etc. Mais il y a aussi surtout des particules qui viennent de très très loin, comme le sable du Sahara, le Sahel, qui sont transportés en très haute altitude par les alizés et qui arrivent sur nos territoires. Alors, ça n'aurait pas été si dangereux que ça, mais quand on a étudié de plus près cette brume de sable, on constate qu'il y a des éléments toxiques, comme le cadmium, l'arsenic, le plomb.
En Polynésie, si le niveau de la mer monte, le littoral recule. Sur l'île de Tahiti ou dans l'archipel des Tuamotu, certains habitants ne peuvent déjà que constater les dégâts. Un reportage de Raye Najarian de Polynésie la première.
des blocs de terre emportés par le courant et des maisons qui risquent de s'écrouler dans la mer. À Mahina, l'érosion des littoraux inquiète certains habitants, eux qui ont déjà vu une partie de leur terrain se faire emporter par la forte houle. Une vingtaine d'habitations sont impactées par l'érosion. À ce jour, ils essayent tant bien que mal de protéger les terrains privés sur le littoral. Au Tuamotu, ce problème inquiète également la population. L'un des habitants témoigne, il a vu le paysage de son île changer lors des 20 dernières années.
Nous, on peut s'inquiéter de l'érosion, surtout à la montée des eaux. Ça fait 24 ans, 25 ans qu'on est ici. On a perdu beaucoup de terre, il faut compter 6 mètres de terre.
Avant la fin de l'année, le gouvernement central devrait intégrer dans le budget 2025 un dispositif pour financer la lutte contre l'érosion côtière afin de soutenir les propriétaires et collectivités impactées.
Enfin Mathilde, concernant l'île de la Réunion, la Fondation Abbé Pierre expose dans son dernier rapport consacré au mal-logement une situation inquiétante. 2 Réunionnais sur 5 sont touchés et sans amélioration à court terme, comme le précise Olivier de la Richaudie de Réunion la Première.
Au mois de janvier, sur les 4 victimes du cyclone Belal, 3 étaient sans domicile fixe. Ces drames témoignent du niveau d'exclusion des plus fragiles selon la Fondation Abbé Pierre. Elle observe d'ailleurs une saturation des hébergements d'urgence, près de 60 000 appels au 115 l'an passé, soit une hausse de 72% des demandes par rapport à 2020. Les demandes de logements sociaux continuent elles aussi d'augmenter avec un nombre de constructions divisé par 4 en 4 ans. Certes, il y a l'inflation du prix du foncier et de la construction, mais ce n'est pas la seule raison. Dans ce rapport, la réticence des municipalités à densifier le parc social est pointée du doigt. Ainsi, 5 000 logements financés attendent un permis de construire. Dans le même temps, des maisons et des appartements restent désespérément vides. Ces 34 000 logements vacants pourraient pourtant trouver preneur en incitant financièrement leurs propriétaires. C'est l'une des solutions proposées par la Fondation Abbé Pierre. Elle encourage aussi l'encadrement des loyers sur le littoral ouest à Saint-Denis et à Saint-Pierre.
Voilà Mathilde Munoz, c'était le journal des Outre-mer. Je vous souhaite une bonne journée.
Moi aussi je vous souhaite une bonne journée, José-Manuel Lamarque.
Le 5-7 sur France Inter.
Il est 5h16 à la une de la presse ce matin. Des fleurs, des œillets rouges, symbole de la révolution au Portugal. Il y a tout juste 50 ans, le peuple renversait la dictature fasciste instaurée par Salazar. C'est le dossier du journal L'Humanité ce matin qui nous raconte l'ivresse collective qu'a représenté ce moment. Et aujourd'hui, qu'en reste-t-il? Se demande Libération. Le pays est rattrapé par ses fantômes. Les dernières législatives, il y a quelques semaines, ont enregistré une forte poussée de l'extrême droite. Parmi les explications, il y a le fait que l'extrême droite réussisse à séduire les jeunes pour qui la dictature n'évoque rien. L'autre grand titre dans la presse ce matin, c'est Emmanuel Macron qui joue aux pompiers, comme l'écrit Libération toujours. Le chef de l'État va prononcer aujourd'hui un discours pour venir au secours d'une campagne européenne qui peine à décoller pour son camp. Emmanuel Macron entre en campagne avec ce grand oral très électoral, c'est la formule du Figaro. 7 ans après son premier grand discours sur l'Europe, le président revient à la Sorbonne pour peser sur le débat. Macron et l'Europe, acte 2, titre La Croix. Il va défendre une Europe puissance. L'Europe, c'est son dernier combat, nous dit l'Opinion. Dans les échos, vous lirez que Casino taille dans le vif pour se relancer. Le distributeur a annoncé un plan social qui porte sur 11% des effectifs. Une purge dans les sièges du groupe. Les résultats trimestriels publiés hier montrent que les petits magasins sont à la peine également, les supérettes, donc pas uniquement les hyper et les supermarchés. Enfin, une première mondiale dans le Parisien aujourd'hui en France. Venise devient payante aujourd'hui pour les touristes qui ne viennent que pour quelques heures. Ils devront payer 5 € pour entrer dans la ville-musée. Le but est de lutter contre la surfréquentation et la pollution. Aujourd'hui, les gondoles sont surchargées, le palais des Doges est comble et la place Saint-Marc hérissée de perches à selfie. Et cette idée, ce type de péage, fait aussi son chemin en France. Ainsi, le maire de Colmar en Alsace réfléchit à instaurer un droit d'entrée pour son marché de Noël. Ce qui se fait pour le moment en France, c'est de mettre en place des quotas, comme sur l'île de Bréa en Bretagne. Depuis un an, seuls 4700 touristes peuvent se rendre quotidiennement l'été. Même principe à Porquerolles dans le Var, où la jauge est à 6000 personnes. Les PFAS, ou polluants éternels, font beaucoup parler d'eux en ce moment. Ces substances chimiques dangereuses pour la santé sont présentes absolument partout, dans l'air, les sols, les eaux, et leur présence augmente. Pour qu'on apprenne à mieux les connaître, Zoom Zoom Zen était consacré hier à ces polluants. Le rédacteur en chef de l'émission remonte aux origines du terme. Les PFAS, d'où ça sort, Cyril Lacarrière?
Donc les
polyfluoroalkylés.
D'où ça sort? Eh bien de nous. La présence des PFAS dans l'environnement est d'origine anthropique, c'est-à-dire qu'ils sont dus à la
l'activité humaine. Mais si c'est à cause de nous qu'ils se répandent, il n'est pas apparu par hasard. C'est aussi l'homme qui a inventé le PFAS. Et ça remonte puisque c'est en 1938 qu'on a découvert le tout premier aux États-Unis. Une découverte liée aux travaux du chercheur Roy Plunkett de la firme Dupont de Nemours. Alors qu'il fait refroidir un gaz avec de la neige carbonique, il obtient une poudre qui résiste à tout. Elle ne se dissout dans rien et elle résiste à des températures de plus de 260 degrés. Et comment s'appelle cette poudre ? Non mais non, pas la cocaïne. Je me lance.
Polytétrafluoroéthylène.
Un nom bien compliqué qu'aujourd'hui on connaît sous un autre terme, autrement plus facile à retenir, le téflon. C'est donc en 1938 qu'on découvre le téflon, mais c'est plus tard qu'on l'exploitera. En 1949, Dupont de Nemours dépose le brevet et commence à l'utiliser à grande échelle à partir de 1954, à la fois dans l'industrie, mais aussi, plus dangereux, dans les produits de consommation courante. Et c'est en 1951 qu'on en utilisera pour la première fois dans des ustensiles de cuisine.
Et les premières rumeurs de dangerosité ne vont pas tarder.
Non, puisque dès 1954, les premières rumeurs sur une possible toxicité des PFAS commencent à circuler, c'est-à-dire donc 70 ans, mais comme c'était pratique et dans un certain sens révolutionnaire, tout le monde a fermé les yeux. Vous savez, c'est comme quand on vous dit que les applications des géants de la tech sont dangereuses, on se dit oui, mais bon, c'est super pratique Google Maps, et puis c'est rigolo Instagram, et puis c'est utile Amazon, on ferme les yeux, et puis à la fin, on chouine. Alors, est-ce que les PFAS sont réellement le poison du siècle ? Pourquoi est-ce que les médias n'en parlent que maintenant ? Pourquoi est-ce que certains protègent ces substances ? Peut-on les éliminer s'ils sont éternels ? Est-ce qu'on se fait pifasser à l'insu de notre plat gré ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir durant une heure.
Cyril, la carrière du lundi au vendredi dans Zoom Zoom Zen de Mathieu Noël, c'est à partir de 16h. Il est 5h21, Lana Del Rey a repris un classique du jazz, déjà interprété entre autres par Ella Fitzgerald et Frank Sinatra, une chanson tirée de la comédie musicale de Broadway, Betsy, voici Blue Skies.
Blue sky smiling at me, nothing but blue skies do I see. Blue birds singing a song, nothing but blue birds all day long. Never saw the sun shining so bright, never saw things going so right. Noticing the days hurrying by, when you're in love, my how they fly. Noticing the days hurrying by, when you're in love, my how they fly. Never saw the sun shining so bright, never saw things going so right. Noticing the days hurrying by, when you're in love, my how they fly. Blue days, all of them gone, nothing but blue skies.
Blue Skies, interprétée par Lana Del Rey, une chanson qui fait partie de la bande originale de la série The New Look, à voir sur Apple TV+.
France Inter.
Il est 5h24, Tanguy Pastureau a l'habitude de maltraiter l'info sur cette antenne et aujourd'hui, c'est en écoutant justement France Inter qu'il a été attristé par l'actualité.
Hier, pendant le flash info de midi, je regardais Bichente Lizarazu en me disant que j'adorerais être gaulé comme lui. Puis il a expliqué qu'il faisait 4 à 5 heures de sport par jour, donc je me suis dit que j'allais rester gaulé comme moi. Quand soudain, Timur Öztürk, qui est un homme dont le nom de famille comporte deux fois des trémas, il a 4 points, à peine moins que l'équipe de Lorient cette saison. Timur annonce la mort de 5 migrants, dont une enfant, au large de la côte d'Opale, ces mêmes côtes où Brigitte et Emmanuel vont régulièrement, bisous sur la plage, promenade dans les dunes, tout rappelle le Cap d'Agde, sauf le climat, hein, donc les gens sont habillés, c'est le patron. Pas-de-Calais. Là-bas, il n'y a pas d'échangiste. Hein. Même pour faire pipi dans la nature, on ne défait pas sa braguette, il fait trop froid. Les gens portent des couches, trois couches, les unes par-dessus les autres, plus trois par cas. Les gens de la Côte d'Opale ressemblent tellement à des lasagnes que quand ils sont dans un resto italien, les autres clients essaient de les manger. Cinq migrants morts en mer, dont une enfant, a dit Timour. Et même le fait que ce soit un journaliste au prénom si mignon, Timour, qui l'annonce, n'a pas amoindri la tristesse de cette actu-là. En fait, même si c'était le chapeauté avec ses petits yeux ou un mougouaï en train de faire qu'il avait dit, ça aurait été triste. Ils étaient 112 sur un small boat. Un small boat, c'est un bateau semi-rigide. Quand moi j'étais adolescent, on appelait ça un Zodiac et on l'utilisait que pour rejoindre un bateau plus solide. Quelle chance on avait. On était trois dessus, pas 112. On avait juste une super vie en fait. Là-bas, à la forêt Fouénan ou à Andernos-les-Bains ou à Cabourg, moins souvent dans le centre-ville de Dijon. 112 sur un small boat avec les paquebots qui vous frôlent parce que la Manche, c'est une autoroute pour super tanker. La vie des cabillots, c'est du bruit tout le temps et tu finis en fish and chip sur le port de Plymouth. 112 sur un small boat, c'est du suicide. Donc il faut être sacrément désespéré pour y aller. En fait, il faut n'avoir aucun plan B. Nous, on a toujours un plan B. Si Théo te met un vent, il y a Timéo. Si le Kalimba te refuse l'entrée à cause de ta tenue, il y a Carrefour City, un pack de bière et la soirée, tu l'as fait chez toi en mettant la RFM Night Fever le samedi soir des 22h avec Patanjali. Mais 112 sur un small boat, tu sais que dans l'eau, personne n'a de plan B. Là, c'était des Iraniens, des Irakiens, des Syriens. Je me mets à leur place. Déjà sur Expedia, ce sont pas des noms de pays que je tape. À un hôtel club à Alep, ouais, bah non. À un don qui vivre, je peux comprendre que ce soit pas une option. Tarif de la traversée de la Manche en Zodiac de 1500 à 6000 euros. Juste pour comparer, la croisière Ponant aux Caraïbes sur le Champlain, 9 jours, départ Fort de France, c'est 4390 euros. 3000 seulement si Philippe Laville vient chanter parce que vous avez une indemnisation. Donc hier, j'écoutais Timour déballer l'horreur de l'actu, une enfant, une de plus. Et là, il a parlé du Rwanda. Parce que donc, ces gens en quête d'un avenir meilleur, en fait d'une survie, hein, même Koh Lanta, ça leur irait, cherchent à gagner le Royaume-Uni. C'est ultra-libéral, t'as des contrats de travail de 2h15, et sur place, il y a déjà des personnes de ton coin prêtes à t'aider. Moi, quand je suis arrivé de Bretagne sur Paris, bon bah ça fait pareil. Mon premier réflexe a été de camper devant chez Nolwenn Leroy, déguisé en enduit de Guéméné. Hein, ces sextos envoyés à Vincent Bolloré, c'était pas uniquement pour le plaisir.
Bien
quoi.
Sûr. Hein,
je comprends qu'on veuille passer en Angleterre. Moi, j'en ai longtemps rêvé, pour d'autres raisons. À l'époque où nous, on avait Beau Lavabo, eux, ils avaient les Stone Roses, le Beautiful South, et Kate Bush, qui est la personne que j'aurais aimé être si j'avais été une femme, sortait The Sensual World, son 6e album. L'Angleterre, ça fait rêver. Les îles en général, à part Haïti en ce moment, où si vous n'avez pas une Kalachnikov, vous n'êtes pas dans l'ambiance. Donc en Angleterre, il y a une crise migratoire massive. Et hier, Timour, notre ami, a donc dit que le Parlement anglais avait adopté une loi autorisant l'expulsion des travailleurs étrangers illégaux, pas vers leur pays d'origine, comme on pourrait le penser, mais vers le Rwanda. En gros, le Royaume-Uni paye le Rwanda pour qu'ils prennent leurs migrants sans possibilité de retour. Ce qui fait qu'à Kigali, bientôt, il va y avoir des Syriens, des Iraniens, des Turcs, des Libyens, dans un pays qui, au niveau du vivre ensemble, c'est pas toujours montré tip-top, comme diraient les experts en géopolitique. Hein, le Rwanda, on l'a plus vu dans les JT que dans 50 minutes inside. Alors, Rishi Sunak, premier ministre britannique, lui, s'est félicité de l'adoption du texte en disant « Maintenant, les migrants sauront que s'ils viennent chez nous, ils finiront en Afrique. » Sympa pour l'Afrique. C'est un monsieur qui, en tant que vendeur au Club Med, aurait été décrit par les clients comme « sans filtre hein, ». Le Rwanda, dirigé par Paul Kagame depuis 2000 et qui tape, alors à chaque présidentielle, 100% des voix. Poutine à côté, c'est Théo de la Starac qui se fait dégager au premier prime. S'est dit très satisfait aussi. Satisfaction qui a un prix 430 millions d'euros sur 5 ans payés par le Royaume-Uni, plus 23 000 euros par personne accueillie. Quand moi je pense qu'un sourire juste me satisfait, j'aurais fait un très mauvais dictature opportuniste de merde. Après, est-ce que risquer de se retrouver en Afrique va décourager des gens qui n'ont rien à perdre de tenter le coup de poker? Je réfléchis, je pense pas. Voilà, tout ça pour vous dire que la Manche est un vaste cimetière, comme la Méditerranée, reste les Caraïbes. 9 jours pour s'éloigner de tout ça et juste être sous le soleil des Antilles, sur un bateau des croisières Ponant et se dire quelle chance j'ai comme quand adolescent dans le Zodiac, on n'était que 3 et pas 112.
Tanguy Pastureau qui sera tout à l'heure à 12h10 dans la bande originale de Nagui et Leïla Kadour. Tous les deux sont installés derrière leur micro dès 11h avec à leur côté ce matin la comédienne, réalisatrice et écrivaine Anne Brochet qui publie un récit autobiographique « L'armoire de vie ».
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
Ce vendredi, France Inter, en direct du Printemps de Bourges, Crédit Mutuel.
Laurent Goumard.
Vivez pendant 3 heures les temps forts du festival. Un peu de love et de tendresse avec Eddy de Préto.
Finalement, c'est ce qu'il nous reste.
Clara Isée viendra illuminer la scène.
C'est ça, mon étoile.
et de nouveaux messages personnels à Françoise Hardy.
Une soirée au Printemps de Bourges Crédit Mutuel.
C'est ce vendredi sur France Inter de 20h à 23h.
Et de la musique, il y en a dès ce matin dans le 5-7 à suivre. Un voyage musical aux confins du classique et de la pop avec les guitaristes Thibaut Covin et Mathieu Chédid. C'est dans 5 minutes dans la chronique playlist. Nous aurons aussi la chronique Polar. Elle nous emmène en Caroline du Nord sur les traces d'un vieux shérif qui fait face à des violences raciales dans sa ville. France Inter, 5h30. Un nouveau point sur l'actu avec François Breton. Emmanuel Macron attendu aujourd'hui à la Sorbonne pour parler d'Europe.
Il doit tenir un discours sur son bilan européen depuis 2017 et ses idées pour la suite. S'agit-il d'une entrée en campagne pour soutenir la candidate macroniste en peine dans les sondages ? Non, assure l'entourage du président qui veut quand même remobiliser son électorat, notamment celui qui serait tenté par le vote Raphaël Glucksmann, la tête de liste socialiste pour les européennes. Il était hier soir en meeting à Strasbourg et il n'a pas hésité à égratigner Emmanuel Macron, Laurence Perron.
Plus de bruit encore !
Nombre d'entre eux n'ont pas leur carte PS. Pour beaucoup, des étudiants venus écouter l'homme, c'est son slogan, qui veut réveiller l'Europe.
Quel accueil !
L'eurodéputé attaque.
Aujourd'hui, nous avons voté la directive sur les travailleurs des plateformes. Et je dois dire que ce n'est pas grâce à Emmanuel Macron.
C'est l'intellectuel qui déroule ensuite.
Wo aber Gefahr ist, wächst das rettende auch. Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve.
Il défend après la démocratie européenne menacée une révolution écologique qui ne pèserait pas sur les pauvres.
Que les multimillionnaires contribuent à une transition écologique qui soit socialement juste.
L'écoute est polie, mais à l'issue de 2 heures de meeting, la salle fatigue.
J'avais écrit à peu près une cinquantaine de pages parce que j'avais décidé que c'était mon grand discours fleuve. Je vais vous épargner.
Toutefois, le feu de clôture sur le président de la République qui aurait renié ses valeurs ranime les ardeurs militantes.
La différence essentielle entre lui et nous. Quand nous rencontrons une situation de déficit, ce n'est pas d'aller taper sur les droits des chômeurs. Ça change tout.
Au final, plus qu'un contre-discours de la Sorbonne, une profession de foi européenne et social-démocrate très documentée.
Laurence Perron, des dizaines de milliers de voyageurs risquent d'être privés d'avion aujourd'hui à travers l'Europe. Près de 2000 vols sont annulés car si la grève des aiguilleurs du ciel en France a été levée hier matin, les compagnies n'ont pas pu reprogrammer tous leurs vols pour aujourd'hui. Trois quarts sont donc supprimés à Orly, plus de la moitié à Roissy et dans la majorité des autres aéroports français. Un jeune de 16 ans arrêté en Haute-Savoie mardi, soupçonné de projeter un attentat lors des Jeux Olympiques cet été. L'adolescent a écrit une lettre d'allégeance au groupe État islamique. Il aurait prévu une attaque à la Défense près de Paris avec une Kalachnikov ou une ceinture explosive. L'adolescent est en garde à vue, interrogé par la DGSI.
L'une des voix de la contestation en Iran, condamnée à mort.
Le rappeur Toudmadj Saeli, très célèbre dans son pays, proteste contre le régime des Mollahs avec sa musique et ses paroles. Il vient d'être condamné à la peine capitale par un tribunal révolutionnaire. Avec lui, c'est un symbole, l'un des symboles les plus visibles de la contestation en Iran qui risque de disparaître, Étienne Monin.
Malgré les risques encourus dans ce titre qui date d'avant la révolution de 2022, Toudmadj Saeli critique ouvertement le régime et l'absence de justice. À 33 ans, cette star du rap en Iran est incarcérée 3 fois, arrêtée en décembre dernier pour avoir dénoncé l'usage de la torture en détention dans une vidéo.
J'ai été torturé. Après cette arrestation, ils m'ont cassé la main et frappé le visage. J'ai essayé de me protéger avec les mains, ils m'ont brisé les doigts.
Issu d'une famille de résistants, le rappeur aux 2 millions de followers sur Instagram est un combattant. Il défend les valeurs de liberté et refuse de se taire, explique Lila Pagzar, activiste de la diaspora en France.
C'est vraiment le symbole de la résistance. Il va donner aux Iraniens de l'intérieur la possibilité de croire qu'ils peuvent résister, que la liberté peut arriver.
Toudmadj Saeli a soutenu la révolution de 2022. Ça n'est pas le premier artiste condamné à mort. Les militants pensent qu'avec lui, c'est l'espoir que le régime veut faire disparaître.
Étienne Monin, le Hamas publie une vidéo d'un otage israélien capturé le 7 octobre dernier lors du festival de musique Nova. L'homme de 23 ans apparaît amputé d'une partie du bras gauche sur cette vidéo. Il affirme par ailleurs que le gouvernement israélien a abandonné les otages qui manquent d'eau, de nourriture, de soins médicaux. Témoignage à prendre avec des précautions puisqu'il est toujours retenu par le mouvement islamiste. En Espagne, le Premier ministre Pedro Sanchez réfléchit à démissionner. Il se laisse jusqu'à lundi pour prendre une décision. Un média espagnol a révélé hier que sa femme faisait l'objet d'une enquête pour trafic d'influence et corruption. Le Premier ministre dénonce une opération de la droite pour le déstabiliser.
En football, Monaco freine le PSG dans sa course à un 12e titre de champion de France.
Puisque les Monégasques ont battu hier soir Lille 1-0, ils devaient perdre ou faire match nul pour permettre aux Parisiens d'être sacrés champions après leur succès face à Lorient 4-1. Et puis c'est la deuxième édition ce soir des Flammes au Théâtre du Châtelet à Paris, une cérémonie pour récompenser les artistes rap, R&B, les musiques africaines et caraïbéennes. La favorite ce soir, la chanteuse Aya Nakamura, nominée dans 6 catégories différentes.
C'était le journal de François Breton. Le temps de ce jeudi 25 avril dans le sud-ouest, beaucoup de nuages et ils s'accompagnent d'averses. Le ciel est plus dégagé sur la moitié nord, mais quelques gouttes sont possibles de la Bretagne aux frontières belges, ainsi qu'en Lorraine et en Alsace. Vous aurez plus de soleil dans le sud-est. Côté température, on a encore des gelées dans un grand quart nord-est et en Auvergne-Rhône-Alpes, mais c'est bientôt la fin. Ailleurs, il fait généralement entre 2 et 7 degrés. Cet après-midi, comptez de 10 à 15 degrés au nord, 14 à 19 au sud. Il est 5h35, on va retrouver dans les prochaines minutes l'invité déjà debout qui est prof de trompette à Nouméa et vous verrez qu'il se démène pour développer la pratique musicale en Nouvelle-Calédonie. Et comme on est jeudi, Michel Abesca sera là pour son conseil littéraire. C'est un roman noir américain qui expose les côtés sombres et racistes du Vieux Sud.
France Inter. 5-7.
La chronique musique voix double ce matin. Bonjour Charline Roux.
Bonjour Mathilde.
Quand un virtuose rencontre un autre virtuose, ça donne un projet sous forme de récital à deux guitares par Thibaut Covin et M.
Mon premier a été nommé aux dernières victoires de la musique classique, catégorie soliste instrumentale et capable de ce genre de prouesse. Et mon second, titulaire de 13 trophées, capable de ce genre de live héroïque. Les deux se sont donc associés, le classique et l'électrique, deux artistes éclectiques en somme, pour un album composé à quatre mains et qui comprendra des inédits, dont un à découvrir en fin de chronique, et des revisites de titres de M. Et ce dernier documente avec une gourmandise certaine et sans doute pour alimenter la nôtre, leurs travaux communs sur sa chaîne YouTube. Des reprises allant de Lennon à Satie, en passant peut-être par ceci si on se fie à leur studio session.
Entente parfaite sur La Bohème, aussi parce que les garçons n'en sont pas à leur première collaboration.
En 2018, pour son projet Cities, qui comme son nom l'indique racontait 12 villes du monde, Thibaut Covin avait déjà invité Mathieu Chédid pour mettre en musique le Cap Ferret.
Flot de l'âme qui m'entraîne, qui vient, qui partirait bien loin de la scène.
Et chose promise, chose due sur cet album collaboratif qui donnera lieu aussi à une tournée, un inédit qui donne son titre au projet qui sortira le 7 juin, ça s'appelle Leur Miroir.
Leur miroir de Thibaut Cova et Mathieu Chédide. Leur album sortira le 7 juin et vous pourrez le découvrir en live et en exclusivité la veille, le 6 juin, ou ça, sur France Inter évidemment. Il est 5h41, des procès à la chaîne en Ukraine. Procès pour collaboration, pour juger tous ceux, civils ou officiels, qui ont sympathisé de près ou de loin avec l'occupant russe. Plus de 7000 affaires déjà traitées dans les tribunaux de tout le pays, et en particulier dans l'Est, comme la région de Kharkiv, que la Russie a partiellement occupée pendant 6 mois, il y a 2 ans. La guerre n'est pas terminée, mais les Ukrainiens veulent aller vite et juger leurs traîtres. Même si le travail judiciaire n'est pas simple, vous allez l'entendre, sous la menace persistante des bombardements russes. Agathe Mahué a pu assister à l'un de ses procès à Kharkiv.
Une petite salle d'audience, un matin d'avril. L'accusé, Volodymyr Rytsenko, 41 ans, debout dans le box vitré. 3 policiers autour. L'homme est poursuivi pour avoir donné des informations à l'ennemi. Des indications pour aider le renseignement russe à localiser l'emplacement d'un HIMARS, ce précieux lance-roquettes de l'armée ukrainienne. Lui s'en défend d'une petite voix.
Je n'ai aucun lien avec tout ça. Je n'ai pas collaboré. Je suis un patriote ukrainien.
Personne n'est venu soutenir Volodymyr en détention provisoire depuis plusieurs mois. Pour trahison d'État, il risque 15 ans minimum, voire la prison à perpétuité. Alors il conteste devant le juge, l'avocat d'office qu'on lui attribue. L'audience est levée, l'homme accusé d'être un traître a droit à un nouvel avocat et reviendra à la fin du mois. Des affaires de collaboration par milliers ces derniers mois dans les tribunaux du pays. Plus de 900 déjà, rien que dans la région de Kharkiv, indique Dmytro Tchoubenko, le porte-parole du procureur de la ville.
Chaque semaine, on découvre de nouveaux cas. Le renseignement russe continue de recruter des Ukrainiens.
Mais dans ces régions libérées, le degré de collaboration est sans doute très variable, non ?
Oui, avoir aidé l'occupant à contourner un pont détruit, posté un like pour l'armée russe sur un réseau social ou fourni à manger à des soldats ennemis. Les peines diffèrent, mais les acquittements sont très rares. Olena Patsourkovska, avocate dans la région de Kharkiv, n'en a jamais obtenu pour ses clients. Elle raconte le cas de cet homme dans un village occupé, numéro 2 d'une entreprise à l'arrêt. Le patron avait fui vers l'Ukraine libre.
Les salariés sont venus le trouver pour lui dire qu'ils n'avaient pas de quoi nourrir leurs enfants et qu'il fallait relancer l'entreprise, même sous occupation. Alors il a décidé de collaborer avec les Russes pour que les gens puissent gagner leur vie.
À son procès, l'accusé plaide coupable, mais explique n'avoir pas eu le choix. Olena n'a pas pu lui éviter 15 ans de prison, et certains défenseurs des droits de l'homme, comme l'ONG ukrainienne Zmina, s'inquiètent de verdicts parfois jugés disproportionnés. De retour au tribunal de l'Est de Kharkiv cet après-midi, surprise, les lieux sont plongés dans le noir. Coupure de courant, menace de bombardement, le deuxième procès du jour ne peut pas se tenir. Le juge Victor Tcherniak dépose devant nous, sur son bureau, le registre des alertes aériennes.
Vous voyez, aujourd'hui, ça a sonné presque toutes les demi-heures jusqu'à maintenant. Donc ça rend impossible le fonctionnement du tribunal.
Salle d'audience évacuée, pas simple de rendre la justice dans ces conditions.
Il faut vraiment pourtant que notre justice soit rapide, équitable et exemplaire. Les gens doivent comprendre que ces actes sont officiellement reconnus comme des crimes par l'État. Et cela permet de faire savoir à ceux qui auraient encore de mauvaises intentions contre l'Ukraine que tout ça n'est pas sans conséquence.
Mais que risquent les Ukrainiens restés vivre dans les territoires occupés depuis 10 ans par la Russie, comme la Crimée, s'ils devaient être libérés un jour ? La législation est floue, reconnaît à demi-mot le juge. Et pour les ONG, c'est même un nouveau modèle qui reste entièrement à dessiner.
Agathe Mahué, envoyée spéciale de France Inter en Ukraine avec Yachar Fazilov. Leur reportage est à retrouver sur la page internet du Zoom.
France Inter. Mathilde Munoz. 5-7.
Il est 6h moins le quart, on part très très loin de ce studio maintenant, presque à l'autre bout du monde, pour faire connaissance avec notre invité déjà debout. Bonjour Jérôme Villette.
Bonjour Mathilde.
Vous vivez à Nouméa, vous êtes professeur de trompette au Conservatoire de musique et de danse de Nouvelle-Calédonie. Chez vous, il est quelle heure ?
Là, il est 3h moins le quart exactement, 14h45.
D'accord, donc votre matinale en fait, c'est quelle émission sur France Inter ?
Moi, j'écoute pas France Inter le matin, mais uniquement l'après-midi pour votre matinale à vous, justement.
Oh,
j'écoute tous les jours.
Oh, c'est super, merci, c'est adorable.
Et il faut savoir aussi qu'en Nouvelle-Calédonie, quand on est dans la voiture, on a uniquement quatre radios locales et uniquement France Inter. Donc, vous êtes les seuls de métropole que l'on peut entendre, en fait.
D'accord. Donc, en fait, c'est pas parce que vous nous aimez, c'est que vous n'avez pas le choix, c'est ça?
Si, non, déjà, quand j'habitais en Bourgogne, je vous écoutais déjà depuis des années, donc il ne faut pas dire ça.
Merci beaucoup. Écoutez, ça me fait vraiment plaisir. Parlons de vous, plutôt. Vous êtes donc professeur de trompette au conservatoire de Nouméa, Nouvelle-Calédonie. Vous avez combien d'élèves?
Alors là, actuellement, j'en ai 20,
ouais.
Mais il faut savoir qu'il y a, moi je suis arrivé sur le territoire il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y avait à peine 10 élèves dans tout cuivre confondu, donc trombone, trompette, cor et tuba, mon ami et collègue Charlie Doré donc, a bien développé, et maintenant, à présent, on a près de 150 cuivres sur tout le territoire.
Ah, ouais. Ah oui, donc vous avez bien bossé.
Ouais, ou pas mal, je pense, sachant que le territoire comporte 280 000 habitants seulement, donc c'est pas si mal que ça. Oui.
Et comment vous y êtes pris alors pour susciter l'engouement de ces élèves?
Alors, on a fait pas mal de projets avec Charlie, et depuis quelques années, nous avons des orchestres à l'école. Donc, des orchestres à l'école, je ne sais pas si vous connaissez le principe, en fait, un orchestre à l'école, c'est un orchestre qui réunit tous les élèves d'une même classe, et les enfants prennent confiance en eux, ça encourage le respect, le partage, la solidarité. Et donc, il y a beaucoup de plus en plus d'orchestres à l'école en Nouvelle-Calédonie. En France, ça existe depuis 25 ans, ce dispositif. Il y a 1500 orchestres en France. Il y en a 16 en Nouvelle-Calédonie. L'année prochaine, il y en aura 20. Et il faut savoir que, par rapport au nombre d'habitants, il y a deux fois plus d'orchestres à l'école en Nouvelle-Calédonie qu'en métropole.
Parce qu'on aime plus la musique en Nouvelle-Calédonie ?
Je ne sais pas, mais en tout cas, le gouvernement, les instances, les communes, vraiment ont confiance en ce dispositif, en fait.
Et alors, qu'est-ce que vous faites? Vous faites des spectacles? Vous leur apprenez à jouer de plusieurs instruments? Ça se passe comment?
C'est ça, par exemple. Je suis actuellement en pause d'un orchestre à l'école, donc à Coutio, donc avec l'orchestre de l'école Louise de Gréland. Mmh. Et en fait, c'est un orchestre de cuivre, donc avec des trompettes, des tubas, des trombones et des percussions. Et donc, il y a un intervenant par instrument. Et donc, au début, on travaille séparément. Et à la fin, au bout d'une heure et demie, on travaille en tutti, donc tous ensemble pour essayer de monter les morceaux ensemble. Et on fait des concerts en fin d'année. Il y a en général tout le temps un festival en fin d'année. Cette année, il y aura 4 jours complets de festival d'orchestre à l'école. Et ça va être génial, comme d'habitude.
Et en parlant de festival, il y en a un autre qui est important pour vous, le festival Trompette sous les Étoiles.
Ouais.
Alors, il n'y en aura pas cette année, parce que là, c'est tous les 2 ans, donc ce sera pour l'an prochain. C'est quoi, ça, ce festival?
Tout à fait. Alors, en fait, c'est un festival qui a pour but de faire connaître la trompette sous tous ses registres, et plus généralement les cuivres, mais aussi de créer des liens entre les trompettistes du monde entier et puis des jeunes des quartiers défavorisés. Mmh. Donc on a commencé en 2021, mais comme c'était l'époque du Covid, on a fait uniquement intervenir des musiciens locaux. L'an passé, en 2023, on a pu faire venir des internationaux, donc Christophe Leloy, le trompettiste de jazz d'Aix-en-Provence, Yoshio Kobayashi, un trompettiste de Tokyo, et le Capharnaüm Quartet, un quartet de Bourgogne. Et donc, en 2025, on fera venir des artistes du Pacifique. Et je profite d'ailleurs d'être à votre antenne,
oui,
pour dire qu'on recherche vraiment des mécènes, des sponsors. On est éligible au mécénat. Donc, plus on aura de sponsors, plus on a de mécènes, plus notre programmation sera belle. Et aussi, on a pour but d'emmener nos élèves en Australie aussi, pour leur faire prendre des cours dans les conservatoires à Sydney et Melbourne. Donc, s'il y a des sponsors, des mécènes potentiels, vraiment, allez-y.
Voilà.
Regardez notre page Facebook.
Ouais, le message est passé.
Trompette, voilà. Sous les étoiles, et voilà.
Trompette, ouais. Sous les étoiles, le nom de votre festival. Ibrahim Malouf, hein, en est le parrain. Est-ce qu'il a déjà pu venir ou pas?
Pas encore, non. En tout cas, il a émis le souhait de venir jouer pour notre festival. Donc, on attend, on espère qu'il viendra bientôt pour jouer pour notre festival. On espère, en tout cas.
Trompette sous les étoiles, donc rendez-vous l'an prochain. Ce sera peut-être l'occasion de se rappeler, Jérôme Villette. Merci beaucoup.
Et
vous avez bien fait de nous avoir écrit pour passer à l'antenne. J'en profite pour redonner notre adresse, le5-7@radiofrance.com. Et je remercie Amaury Baucher et Victor Benigni qui font partie de l'équipe du 5-7 et qui s'occupent de ce rendez-vous tous les jours. Il est 6h10, l'heure des petits bateaux. Alors, il est sans doute un peu tôt pour que vous nous écoutiez dans la salle d'attente d'un médecin, mais avoir dans les oreilles la radio ou un podcast, ça peut être un moyen de passer le temps dans ce genre de moment.
Et coucou les petites curieuses et les petits curieux, c'est pour une consultation, vous avez rendez-vous ?
Bonjour, je m'appelle Margot, j'ai 9 ans et demi, et je voudrais savoir pourquoi les docteurs sont toujours en retard. Au revoir.
Margot, là, avec ton petit air innocent, je pense que tu viens de faire réagir un paquet de monde. Certains qui sourient et qui valident, et d'autres qui s'étranglent, notamment les docteurs. Et docteur, c'est justement votre métier, Sophie Gottmann, puisque vous êtes dermatologue, et vous avez accepté de répondre.
Alors, les médecins ne sont pas toujours en retard. Certains le sont parfois, certains le sont souvent. Rarement sont ceux qui le sont toujours. Pourquoi les médecins peuvent-ils être en retard ? D'abord, il faut savoir qu'il y a des endroits où il n'y a pas assez de médecins et les médecins sont débordés, ils ont trop de patients, donc c'est difficile. Parfois, il y a des urgences qu'il faut intercaler entre des rendez-vous standards, donc ça vous rajoute un patient. C'est source de retard, évidemment. Ensuite, je dirais qu'on a des agendas avec des heures de rendez-vous, mais vous savez qu'il est extrêmement difficile de savoir à l'avance combien de temps il va falloir consacrer à une personne. Ça dépend de la personne elle-même. Imaginez une personne d'un certain âge ou handicapée qui a du mal à se déshabiller, qui n'entend pas très bien, qu'il faut répéter. Imaginez qu'il faille annoncer une mauvaise nouvelle, qu'il s'agit d'une maladie grave, qu'il y ait une explication sur un traitement compliqué à donner. On ne peut pas savoir à l'avance combien de temps il va falloir parler, expliquer à la personne, dialoguer, l'écouter, combien de temps pour l'examiner. Donc c'est difficile à gérer un agenda de médecin. Alors, on compte souvent sur, on se dit, bon, bah là, je vais pouvoir rattraper avec le patient suivant. Là, j'ai passé trop de temps avec ce monsieur ou cette dame, heureusement. Et puis, en fait, parfois, bah, y a deux patients ou trois patients qui se succèdent, qui nécessitent plus de temps et plus d'attention. Et on ne va pas les mettre dehors sous prétexte que le temps est passé. Ça veut dire que la personne qui suit dans la salle d'attente, elle va attendre un petit peu plus longtemps. Et si on n'a pas de chance, et c'est souvent la loi des séries, plusieurs patients compliqués viennent de suite, eh bien, ça y est, le retard est vite attrapé. Mais bon.
Mais enfin, il y a quand même des médecins, on va dire, qui sont toujours ou presque toujours à l'heure, et d'autres connus pour être, alors peut-être pas toujours, donc, mais souvent en retard. Est-ce que c'est pas aussi parce que certains ne prévoient pas de temps mort, justement pour anticiper certains imprévus, ou juste pour souffler ?
On pourrait avoir des blancs. C'est-à-dire une plage horaire. Mais moi, j'essaie d'avoir ça. D'avoir une plage horaire où on peut éventuellement rattraper. Très honnêtement, on essaie d'être à l'heure. Et ce n'est pas toujours possible, croyez-moi. Il y a quand même pas mal de médecins, à partir du moment où la personne rentre dans la pièce, vous êtes pour cette personne, là, vous ne faites rien d'autre, vous êtes consacré à cette personne. Donc on peut oublier le temps, enfin moi je sais que ça m'arrive d'oublier le temps, je suis dans la relation avec la personne, j'essaie de régler le problème, de prescrire ce qu'il faut, d'expliquer, et bien c'est vrai qu'on se laisse avoir, enfin moi je me laisse avoir souvent.
Et là, quand on est ce patient, on est content, mais pas quand on est dans la salle d'attente.
C'est ça, on n'est pas content qu'on consacre du temps à celui qui était avant soi.
Et là, alors ça n'a jamais été aussi vrai, hein. Il faut prendre son mal en patience. Salut les matelots.
Les petits bateaux. Posez vos questions par note vocale sur l'appli France Inter.
Les petits bateaux de Camille Cronier, c'est tous les jours juste à 6h10 et à 20h05.
France Inter. Le 5-7.
Direction le sud des États-Unis dans la chronique Polar et Roman Noir. Bonjour Michel Abesca.
Bonjour Mathilde.
Vous avez choisi le quatrième roman de Wiley Cash, Les Ombres de Oak Island.
Oui, et c'est également un retour en arrière car le roman se passe à la fin de l'année 1984 sous la présidence de Ronald Reagan. Oak Island est un bel endroit au bord de l'Atlantique, en Caroline du Nord, mais la ville est travaillée par de puissantes mutations. En particulier le développement à tout va du tourisme, la bétonisation du littoral avec la construction d'immeubles résidentiels, de centres commerciaux, de villas luxueuses, etc. Et comme tout le sud des États-Unis, Oak Island demeure marqué par les tensions raciales, les suprémacistes blancs multiplient les provocations, aiguisant la colère des Noirs qui refusent de continuer à courber les chines.
Et j'imagine qu'un événement va brusquement enflammer la situation.
Évidemment, Winston Barnes, le shérif de l'endroit, est réveillé au milieu de la nuit par le vacarme d'un avion qui atterrit avec difficulté sur l'aéroport voisin. Il se précipite et découvre un appareil beaucoup trop gros pour la piste de ce petit aérodrome, le train d'atterrissage cassé. C'est en deux. L'avion est vide, pas de pilote, pas une seule empreinte dans la cabine. Et le corps d'un jeune homme est vite retrouvé en bord de piste, tué par balle, la chemise en sang. Le shérif le reconnaît, il s'agit de Rodney, le fils d'Ed Bellamy, l'un des seuls professeurs noirs du comté, leader de la lutte pour les droits civiques. L'enjeu est de taille pour Winston Barnes, car il a beaucoup travaillé avec Bellamy pour tenter de maintenir l'ordre, mais aussi parce que son enquête va particulièrement être observée. Les élections pour le poste de shérif sont prévues une semaine plus tard.
Et il n'est pas sûr d'être réélu ?
Non, Winston est en fin de carrière, il a 63 ans, il est fatigué, mais doit continuer à travailler car sa femme souffre d'un cancer. Il a besoin de la couverture médicale liée à son poste de shérif. C'est comme ça aux États-Unis. Toute sa vie, Barnes s'est efforcé d'être un bon père, un bon mari, un bon shérif, intègre et juste. Mais les temps changent. Son adversaire est un fils à papa, héritier d'une florissante affaire de promotion immobilière. Il dispose de gros moyens pour faire campagne et se situe clairement du côté des nostalgiques de l'ordre ancien dominé par les Blancs. Et Winston va vite comprendre que même ses collaborateurs les plus proches ne sont pas forcément de son côté, à l'instar de sa secrétaire, Vicky.
Nous sommes assis sur un baril de poudre et je n'ai pas besoin que quelqu'un dans ce bureau joue avec des allumettes, Vicky, ok ?
Elle hésita. Winston la regarda dans les yeux, se figura son cerveau résonnant des mots et des phrases avec lesquelles elle avait grandi, des préjugés ancestraux qu'elle maintenait contre des Noirs comme Ed Bellamy et son défunt fils. Lui demander de remettre en question des défiances et des croyances tellement profondément ancrées qu'elles lui semblaient inhérentes à la vie, revenait à lui demander de s'atteler à l'impossible tâche de séparer sa peau de son squelette.
Oui, monsieur. Shérif.
J'ai besoin que vous soyez, non pas de mon côté, mais du côté de la loi. J'ai besoin de savoir que je peux compter sur vous. D'accord ?
L'histoire est construite autour de la personnalité du shérif ?
Oui, mais pas seulement. L'enquête n'est qu'un fil de l'intrigue qui en croise beaucoup d'autres liés aux nombreux personnages qui gravitent autour du shérif. La maladie de sa femme, dont la vie est en sursis, la dépression de sa fille qui a perdu son bébé et vient se réfugier chez ses parents, laissant son mari à l'autre bout du pays, la colère d'Ed Bellamy qui voit les suprémacistes blancs s'emparer de la mort de son fils pour accuser les Noirs de tous les maux. Autant de ressorts de ce récit d'une exceptionnelle finesse de regard et d'écriture.
C'est ça sa principale qualité ?
Oui, la beauté de ce roman au charme déchirant vient de sa lenteur relative, de son art de prendre son temps, sans jamais rien lâcher de la tension des multiples intrigues qu'il met en place. Elle vient aussi de cette manière de pénétrer au plus intime de ses personnages, de faire entendre l'indicible, les silences et les mots retenus, les mouvements souterrains, de faire surgir les mémoires blessées, individuelles et collectives, d'un petit monde en mutation. Les ombres de Oak Island est d'un de ces livres que l'on n'oublie pas.
Un roman de Wiley Cash, traduit de l'anglais par Jacques Collin, c'est édité au Seuil. Michel Abesca, à jeudi prochain et rendez-vous à tout moment sur franceinter.fr pour retrouver vos précédents conseils via la page Le Polar sonne toujours deux fois.
France Inter, c'est aussi une application mobile.
Avec le bouton Réagir, posez vos questions en direct, commentez les émissions, laissez une note vocale.
Mettez France Inter dans votre mobile.
Téléchargez l'appli, c'est gratuit.
5h58.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles. Euromaster, votre partenaire confiance depuis plus de 30 ans.
On ne voit guère voir le soleil aujourd'hui, Sébastien Léas.
C'est une nouvelle journée nuageuse à très nuageuse qui nous attend aujourd'hui. Le ciel sera particulièrement chargé entre le Poitou-Charentes, l'Auvergne et les Pyrénées et les averses seront régulières. La couche nuageuse sera plus morcelée sur la moitié nord. Les éclaircies seront surtout belles entre le bassin parisien et la Bourgogne-Franche-Comté, alors que quelques averses sont à prévoir près de la Manche, au nord de la Seine et sur le Grand Est. Le sud-est bénéficiera de plus de soleil, mais autour du golfe du Lion, le ciel va se voiler de plus en plus cet après-midi. Les températures reste sous les valeurs de saison. Les minimales descendent parfois sous la barre du 0 degré sur une large partie nord-est. Cet après-midi, les maximales culmineront entre 10 et 15 degrés sur la moitié nord et entre 14 et 19 degrés plus au sud. Mais petit à petit, la hausse des températures va se poursuivre et on retrouvera des valeurs de saison en fin de semaine.
Sébastien Léas de Météo France. Nous sommes le 25 avril, journée mondiale de lutte contre le paludisme et la lutte s'est considérablement renforcée ces dernières années grâce à deux vaccins qui commencent à être déployés en Afrique, notamment grâce à l'UNICEF. Et je reçois la porte-parole de l'ONG en France, Lucille Grosjean, à 6h20. Dans le grand angle, reportage sur l'extrême droite qui est divisée au Parlement européen. Nationalistes et populistes n'arrivent pas à s'entendre. Dans l'esprit d'initiative, une cantine qui nourrit les chiens et les chats des personnes dans le besoin. Et il y aura un champion marocain de surf dans l'esprit.